Il est 16h03, j'espère que vous passez un excellent début de semaine. Vous écoutez le retour de Boulevard. Mathias Turcotte est là aux nouvelles. Antonine Iacarini est bien assise devant moi à la chaise qu'elle aura occupée pas mal tout au long de l'été. T'en es à tes derniers jours, Antonine, avant des vacances bien méritées.
Ouais, moi je tombe à vacances jeudi.
Bon, moi aussi.
Je laisse la place à la programmation régulière.
Oui, dès lundi prochain, Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot qui seront de retour. Et graduellement, ben, on va revenir à la programmation régulière de Boulevard 102.1, dont on aura le plaisir de vous annoncer tous les détails là, très prochainement. Chose promise, chose due. Un petit peu plus tard, j'aurai pour vous... en fait, c'est pas compliqué, on vous envoie deux fois au Stade Canac avec les concours aujourd'hui, mais pour deux sports bien différents. Un petit peu plus tard, j'ai des billets pour le match Boulevard des Capitales de Québec. Mais tout de suite, le vendredi 21 août, 20h, c'est la NSPW qui vous invite à une grosse soirée de lutte professionnelle qui va être explosive. C'est le gala La Rage dans la Cage au Stade Canac. Alex Silva et Pee-wee qui vont régler leur compte dans un combat de cage, un combat de cage à lutte. C'est toujours quelque chose de très spécial. Et là, avec Alex Silva et Pee-wee, ça promet une cage. Deux combattants, il y aura un perdant et un gagnant. Et en tant que fier partenaire de la NSPW, on a 4 billets en admission générale à vous donner drette là. Les billets sinon qui sont en vente sur lepointdevente.com. Mais pour 4 billets pour la soirée de NSPW le 21 août au Stade Canac, ce que je vous demande au 418-971-1 par texto, je vais avoir besoin de votre prédiction. Qui va gagner le combat de cage? Est-ce que ce sera Alex Silva ou Pee-wee? Donc 418-971-1021, Alex Silva ou Pee-wee, et votre nom complet. Et une personne sera sélectionnée au hasard et gagnera 4 billets pour le 21 août. Alex Silva ou Pee-wee, qui va gagner? 418-971-1021, et j'ai aussi besoin de votre nom complet. On va faire des nouvelles dans la prochaine demi-heure avec Mathias, voir si on a quelques mises à jour là, sur différents dossiers. Mais d'abord, je pense qu'on en a parlé en ondes dans les dernières semaines, d'à quel point il y a certains sujets qui m'énervent, dont je suis écœuré de parler, que je trouve qu'on tourne tout le temps en rond. Et là-dedans, il y a l'intelligence artificielle, puis je trouve qu'on en parle.
Ça me fait rire que tu sois tanné, parce que, premièrement, c'est impossible qu'on en parle de moins en moins. C'est comme si, je sais pas, au moment où est-ce qu'ils ont inventé... la machine à vapeur et l'électricité. Oh, je suis tannée de tout ça. Comme si il n'y avait rien que ça dans la vie.
Attends,
c'est une révolution. C'est bien normal qu'on en parle.
Oui, puis c'est pour ça qu'on va en parler dans les prochaines minutes. Parce que il y a des fois où je trouve ça super intéressant. C'est juste que souvent, je trouve qu'on tourne en rond puis qu'on revient un peu autour des mêmes affaires.
C'est parce que c'est comme l'IA pour régler la crise climatique. L'IA pour voyager. L'IA pour... Ouais, il y en a comme à toutes les sauces,
mais
on en parle beaucoup.
Il y a des fois, puis moi, je suis légèrement en guerre contre l'intelligence artificielle parce que je trouve que ça rend le monde lâche. Moi, je suis vraiment dans cette catégorie-là où j'ai commencé à l'utiliser un peu dans des moments bien précis, mais je me connais puis je connais l'être humain en général. Je veux pas commencer à faire préparer toutes mes entrevues par l'IA parce que je sais qu'à un moment donné, on va en venir à faire ça puis faire de vérification. Moi, j'ai de la misère à faire confiance à l'humain dans la vie. C'est pas vrai que je vais commencer à faire confiance à l'intelligence artificielle.
On n'aura pas de débat, Max. Moi, je suis Grinch de l'IA.
Ah, moi aussi, vraiment.
Quand je reçois des affaires faites par IA, by the way, on s'en rend compte. Okay?
Oui,
ça se voit que c'est fait par l'IA.
Ça se lit facilement.
On le sait. Puis je me dis toujours, c'est correct. Le résultat peut être correct. Mais mettons que... Puis ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui me disent... Quand on était jeunes, dans les cours de maths, on nous disait « faut que vous appreniez à calculer parce que vous n'auriez pas toujours une calculatrice. » Bon, finalement, on a toujours une calculatrice dans nos poches puis ça s'est avéré que c'était pas un bon conseil. Mais l'IA, dans nos métiers... T'sais, on fait du contenu, on fait de l'actualité, on fait des nouvelles, on fait des entrevues. Oui, tu peux faire tes plans par IA. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas l'incarner, tu ne vas pas avoir compris le sujet si tu as contourné le travail qui est requis en arrière.
Exact. C'est souvent, je l'utilise après avoir fait mon premier plan d'entrevue, voir, bon, est-ce qu'il y a des angles qui m'ont échappé? Je ne veux pas laisser l'IA décider de mon angle d'entrevue. Ça, si j'invite quelqu'un en entrevue, c'est parce que j'ai un plan, j'ai un angle, puis fait que je ne vais pas laisser l'IA après ça décider qu'est-ce que je prends comme angle. Mais est-ce que dans l'entrevue, je peux avoir des bonifications grâce à l'intelligence artificielle qui trouve quelque
Pourquoi
chose? Pas? Ça, hey, moi, tant mieux. On serait niaiseux de ne pas l'utiliser
mais
à notre avantage.
Mais tu prends pas de raccourci. Tu t'en sers comme un outil. Mais c'est l'objectif, ça. C'est pas de sauter des étapes et de ne pas travailler
exact.
Sur tes affaires.
Il y a quelqu'un dans les derniers jours qui a vraisemblablement utilisé l'intelligence artificielle en voulant sauter des étapes, en voulant prendre des raccourcis, puis qu'après ça, lui ou son équipe, ça c'est un des angles de discussion qu'on peut avoir intéressant aussi, mais il s'appelle Bill Oliver. Et lui, c'est un politicien du côté du Nouveau-Brunswick. Et je vais vous faire entendre ce qui s'est passé avec Bill Oliver, puis ça va vous sonnez des cloches par rapport à des situations que vous avez vues dans les dernières années survenues à cause de l'intelligence artificielle. Puis le pauvre monsieur, qui est assez âgé, là, a même pas l'air à se rendre compte de ce qui est en train d'arriver. Lui, il lit son texte, carrément. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'il lit un peu sur le pilote automatique, puis c'est ça, comme je vous dis... Il se rend pas compte. C'est en anglais, on vous fera la traduction après, mais voici comment ça a sonné, puis c'est en train de faire le tour du web.
One of the dangers associated with creating advocacy offices is that citizens often develop expectations that exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap between what New Brunswickers may reasonably expect this office to accomplish and what the office will actually have the authority to do.
Je vais faire réentendre le bout qui est comme problématique. Au début, on l'entend établir certains points, tu sais, de façon très, je veux dire, froide, tu sais. Puis là, on entend ça. Et là, lui lit ça sur sa feuille.
Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points.
Et ça, c'est très intelligence artificielle de dire voici une version avec un flow plus naturel, tu sais. Et là, lui, il continue de lire, il repart sur son autre version plus naturelle.
Ce qui me fait capoter, c'est qu'il a lu au complet cette phrase-là comme si de rien n'était. Même lui, il s'est pas rendu compte que cette phrase-là avait pas d'affaire là.
Ça, c'est un des problèmes, c'est qu'il est tellement sur le pilote automatique qu'il s'en rend pas compte. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a demandé à ChatGPT ou une autre IA d'écrire un discours. Et, bon, des fois, tu lui demandes quelque chose, il va t'écrire quelque chose, puis à la fin, il va dire « Est-ce que tu aimerais que je te fasse une version peut-être plus en texte
exact.
Continu? » Parce que là, c'est ça l'extrait. Je vous le traduis. Il lit une partie de son discours et il ajoute « Voici une version au flow plus naturel de cette section qui se lit comme un discours législatif plutôt qu'une série de points de forme. » Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'IA avait livré en point de forme. Ensuite, la personne, que ce soit lui, ça doit pas être lui, là, ça doit être un employé, a dit « Fais-moi-la en texte continu. » parce que je veux quelque chose de plus naturel qui est plus sous forme d'un discours législatif. Et là, l'IA reproduit une deuxième version. Body, ce qu'il fait, c'est qu'il copie, colle cette affaire-là, mais il inclut la phrase d'introduction de ChatGPT ou d'une autre intelligence artificielle quelconque. Et M. Oliver s'en va lire ça tout bonnement en chambre, comme si de rien n'était. Et ça, bien... Je trouve que c'est symptomatique de plusieurs choses. Moi, j'ai participé à une émission de débat pendant plusieurs années, puis je sais que j'ai des collègues qui l'utilisaient. Ils demandaient, par exemple, à ChatGPT, « Peux-tu me sortir les arguments pour et les arguments contre à cette question? » Puis je le reconnais dans le début de la vidéo, de l'extrait que tu as mis. Même la formulation de la phrase, ça fait très ChatGPT. C'est un des éléments qui peut être problématique, c'est le nanana. T'sais, c'est comme ça que ChatGPT va nous répondre à ces enjeux-là. Maintenant, il faut se relire. Là. T'sais, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a relu le discours. Puis en politique, ça va vite. Fait que si les employés politiques ou les politiciens commencent à se faire des petits discours par ChatGPT, Parce que pour vrai, là, c'est la machine à saucisse en politique. Là. Des discours, t'en fais en chambre, t'en fais à tel événement, tu vas faire une entrevue. Donc, ils n'ont pas deux semaines pour préparer un discours. Là.
Puis lui, s'est fait pogner parce que quelqu'un a été lâche puis a mal fait les choses. Puis là, lui a fait confiance à son équipe puis est allé avec ça puis se rend compte de rien. Mais c'est clair que c'est déjà rendu coutume en politique. Là.
Je suis sûre et certaine. C'est évident. Puis on le voit dans plein de secteurs. La politique, c'est toujours un peu en retard. Hein. C'est pas le lieu le plus moderne en termes d'innovation. Mais c'est, je veux dire, ça s'est intégré dans tous les milieux de travail. C'est certain que, par exemple, à la période de questions, il y a des employés politiques, des recherchistes, des attachés politiques qui demandent une première version de la question posée. T'sais, puis en plus, tu peux, à ChatGPT, tu peux demander, il faut que ça rentre exactement dans 30 secondes. T'sais, c'est vraiment plus facile.
Mais en même temps, que ce soit écrit uniquement par l'intelligence artificielle, moi, j'ai comme un malaise. Je sais pas, me semble... C'est quand même des dirigeants qui s'adressent au peuple. Là.
Mais ça veut dire que pour moi, c'est pas ses idées. Moi, c'est ça que je retiens aussi. Le monsieur, il donne des arguments qu'il a trouvés sur ChatGPT. T'as pas eu une réflexion sur le sujet, mon grand. Là.
Si nos dirigeants commencent à justement prendre des idées de l'IA puis les mettre en application, ou du moins les mettre dans leur discours, ben c'est quoi? On va finir par être dirigé par l'intelligence artificielle indirectement?
Moi, une bonne idée, c'est une bonne idée. Qu'elle vienne de n'importe qui, puis j'inclus l'IA là-dedans.
Faut pas se rendre.
Mais il y a des billets déjà à l'IA.
Oui.
Puis il y a des intérêts aussi à un moment donné. Tu sais, là, en ce moment, ils sont en train de légiférer que l'IA essaie de pas nous encourager à nous suicider. Quand les gens écrivent pour dire que je vois pas bien, qu'est-ce que je devrais faire, on a vu des cas où l'IA poussait le monde à s'enlever la vie. Bon, ça, c'est un cas extrême, vous allez me dire, mais tu sais, le choix d'information qui nous est donné par l'IA. Là, on parle de des législateurs, on parle de des gens qui vont faire des politiques publiques. Si ça devient une loupe fermée où l'IA nourrit les politiciens nourrissent l'IA parce qu'elle veut pas, elle apprend de nous aussi, l'intelligence artificielle, moi, j'y vois quand même un enjeu. L'autre enjeu, c'est que, tu disais tantôt, je pense que ça nous rend stupides. Je pense que le monsieur, tu sais, quand on regarde des élus, on s'attend à un certain standard d'exemplarité. C'est sûr que ça paraît mal. Ah, en termes de niveau de confiance de la population envers la classe politique, vous voyez une affaire de même, tu dis, lui, il croit même pas ce qu'il dit, il a même pas lu son discours avant, ça vient de l'intelligence artificielle.
Ben, c'est parce que ça envoie le message aussi, si personne repasse là-dessus puis que c'est juste du contenu fait par l'intelligence artificielle, personne a d'intelligence ou de vouloir de remettre ça en question avant que ce soit pendu puis livré, ça mène un questionnement aussi, au final, n'importe qui peut faire ça.
Ben, c'est un peu ça. L'autre élément, c'est que je trouve que de plus en plus, tous les contenus sont pareils.
Ah, mais là, on pourrait parler des publicités sur Facebook.
Oh, mon Dieu!
Tellement écœuré de voir le même... Au début, tu faisais comme « Ah, c'est cool! » Clairement, c'est de l'intelligence artificielle, mais quelqu'un a utilisé ça. Moi, j'avais pas de problème avec ça. À partir du moment où tous les restaurants, tous les bars, tous les festivals, tous les je-sais-pas-quoi utilisent exactement le même format avec les mêmes points, même police d'écriture, même... C'est devenu une joke, là, à quel point il n'y a que ça.
C'est que tu ne vas pas jamais sortir du lot non plus.
Mais
moi,
non.
Je pense que ça devient complètement inefficace. Puis, on a un problème aussi. On n'est pas très bon en français au Québec. Je trouve pas qu'on est très bon en rédaction. On n'est pas super... On n'a pas une culture du discours, du bon discours non plus qui est là. Hey, là, avec l'IA qui va le faire à notre place, là. Le monde, tu sais... Je sais que c'est cliché, là. Puis je reviens à mon histoire de calculatrice, puis qu'on nous a dit « Ah, mais on n'aura pas toujours de calculatrice. » Finalement, de l'IA, on en a toujours au bout des doigts. Mais c'est tellement lié à la réflexion puis à la communication. Moi, je pense que ça va baisser la qualité de la rédaction. Puis on le voit déjà en passant, là, tu sais, ça fait quelques années que je travaille dans le domaine des communications. Les générations plus jeunes ont plus de difficultés à rédiger des textes. Et là, ils s'appuient beaucoup sur l'IA pour le faire, c'est rien pour apprendre.
Puis, ben ça, c'est intéressant ce que tu apportes parce que la calculatrice avait apporté ce questionnement-là sur la réflexion.
Oui.
Mais on a quand même des mécanismes dans l'apprentissage qui vont contrer ça. On va faire des problèmes ou qui demandent la réflexion.
dans pas l'éducation, dans le parcours pédagogique.
C'est pas juste tu fais 3 fois 4 égale 12. Si tu vas avoir un problème, tu vas devoir réfléchir quel chiffre tu places à ta...
Moi, j'étais tellement nulle en maths, puis il a fallu à un moment donné que je le fasse, puis je l'ai fait. Mais à partir du moment où j'ai eu mon diplôme, on s'entend que j'ai plus jamais calculé quelque chose moi-même. Le problème, c'est que faire des calculs, c'est pas comme communiquer.
C'est ça.
Communiquer, c'est dans tout ce qu'on fait.
Va peut-être justement falloir trouver des moyens de faire en sorte que même dans notre parcours éducatif, qu'éventuellement, même avec l'implantation de l'IA, mais t'as pas le choix d'avoir une réflexion dans les travaux qu'on te demande.
Qu'il y a des choses qui doivent être faites sans par l'humain. Ton ordinateur ou ton téléphone. Moi, je connais des gens qui donnent des conférences. Ils font préparer leur conférence par l'IA. Mais une fois que tu l'as fait préparer, si, encore une fois, si tu as pris un raccourci puis que tu ne l'as pas toi-même, c'est pas le fruit d'une réflexion, quand vient le temps de le livrer, c'est pas extraordinaire, là.
Quelques textos qui entrent au 418-971-1001, n'hésitez jamais. Entre autres, commentaires sur l'intelligence artificielle. À mon avis, les personnes qui l'utilisent à outrance, pour être bien honnête, seront les premières personnes à être remplacées par celle-ci.
Bon point.
Je suis un directeur, que je sais qu'un de mes employés me répond toujours avec une recherche sur l'intelligence artificielle, pour quelles raisons je ne ferais pas plutôt utiliser à l'intelligence artificielle plutôt que de payer un plein salaire d'un vrai employé. À mon avis, l'intelligence artificielle n'est qu'un... je pense que c'était avec la commande vocale, ou outil pour devenir plus performant et plus productif. Puis en effet, c'est là où il faut l'utiliser puis où on serait niaiseux de ne pas l'utiliser. Comme à un moment donné, moi, j'ai bien voulu faire la guerre complètement à l'intelligence artificielle.
Non, t'as pas le choix.
Puis à me dire, je vais devenir lâche si je commence. Maintenant, j'ai pas le choix, là. Puis des fois, c'est super pratique, puis ça te permet de... tu sais, mettons, je donne un exemple, une nouvelle qui revient à l'actualité, mais qui est un suivi de quelque chose qui est arrivé, je sais pas moi, en 2017, quand moi, j'étais pas à Québec. Ben, de demander un petit résumé à l'intelligence artificielle en gardant en tête que...
Ben, il y a sûrement des erreurs, là.
Exact.
C'est l'enfer, là. Honnêtement, moi, je m'en sers très peu pour faire mes chroniques. Des fois, une fois de temps en temps, je me dis, bon, tu sais, là, il faut que je collige, par exemple, dans toutes les circonscriptions. Je cherchais l'autre fois le nombre de circonscriptions dans lesquelles le NPD avait fait plus de 10 %. C'était ça que je cherchais. Je me suis dit, je vais demander à l'IA. Il n'a pas été capable. Tu sais, c'est pas... À date, là, je trouve pas que c'est toujours génial comme résultat.
Ce que je me sers le plus, pour vrai, avec l'IA, dans le contexte que je disais, là, d'aller chercher des... J'y demande... Puis là, il me donne le gros de l'information, puis je vais chercher, il te met tant les liens qu'il prend comme source, puis je m'en sers surtout pour aller trouver ces liens-là.
Puis là, tu vas lire.
Tu prends comme source, puis là, je vais voir la nouvelle officielle, mettons, de Radio-Canada ou du journal ou de la presse ou whatever de 2018.
Il est bon pour trouver.
Ouais, fait que je pense que c'est de savoir comment l'utiliser, puis d'être au courant des risques de devenir lâche, puis de t'arranger pour pas devenir lâche.
Comme outil de recherche, c'est intéressant, mais ça, faut tout le temps contre-valider. Moi, mettons, puis j'étais un peu comme toi, Max, au début, là, que je me refusais d'utiliser. Je suis encore aux études à l'université. Là. Comme outil d'aide à l'étude, c'est exceptionnel. Là. Tu mets toute ta matière dans l'intelligence artificielle, puis tu lui donnes la commande clairement de... Tu restes dans la matière que je t'ai donnée, puis tu me fais des belles feuilles d'études pour par la suite étudier. Puis ça fait des feuilles d'études exceptionnelles parce que ça prend que la matière que tu lui donnes.
Ouais, mais moi, je pense que tu vas moins retenir si tu n'as pas écrit toi-même ton résumé. Mais ça, je sais que je suis vieux jeu. Puis peut-être que tu n'en as pas besoin de tout retenir non plus. Là.
Écrire fait partie des manières de retenir, effectivement. Là,
absolument. Puis tu sais, faire l'entonnoir de l'information puis arriver vers l'essentiel. Si tu prends le raccourci, ben tu vas être capable de répéter le résumé, mais tu n'auras pas le processus nécessairement qui est en arrière. Donc, bref, moi, je pense qu'en politique, c'est sûr que c'est déjà hyper utilisé, mais à mon avis, ça va contribuer à briser le lien de confiance si on voit trop d'histoires comme ça. Il y avait le député libéral Frédéric Beauchemin qui avait posé une question, puis là, ça fait déjà quelques années, puis c'était comme innovant là, à cette époque-là, mais il avait posé une question entièrement composée par l'intelligence artificielle, mais c'était dans le but d'avoir une commission parlementaire sur l'importance justement de baliser l'intelligence artificielle.
C'était prévu, là, c'était de l'art.
C'était un stunt. Voilà.
Tant qu'à être dans l'intelligence artificielle, puis dans les prochains instants, on va vous faire un petit bulletin de nouvelles avec Mathias, là, les 3-4 nouvelles les plus importantes de la journée. Mais tant qu'à être dans le dans le sujet. J'ai passé une nouvelle dans le journal, en fait, qui rapporte une nouvelle d'un média spécialisé en informatique, 404 médias, où on nous parle de conversations faites par l'intelligence artificielle Claude, qui ça a l'air est comme vraiment dans le top des intelligences artificielles, mais qui se sont retrouvées dans les résultats de recherche de Google. Et c'est des utilisateurs qui auraient rendu public, sans le vouloir nécessairement, des informations qui pourraient contenir des données sensibles. Puis c'est drôle parce que j'écoutais le podcast de Mike Ward sous écoute un des dernières semaines, je me souviens pas lequel exactement, où il parlait du fait que lui, il avait des condos en Floride puis qu'il s'était créé un site pour louer ses condos en Floride. Puis il s'était servi de l'intelligence artificielle pour le faire puis que il s'en est servi vraiment quasiment d'un bout à l'autre pour la création de son site. Puis après ça, dans son site, il a intégré une intelligence artificielle pour répondre aux questions des usagers par rapport à son site, puis sa location de condo et tout ça. Puis tu sais, il racontait une couple de problèmes qu'il avait eu de... L'intelligence artificielle était venue changer complètement certaines informations. C'est comme, OK, mais pourquoi tu changes ça? Mettons son numéro de taxe ou whatever avec le gouvernement du Québec. Puis l'intelligence artificielle, pour une raison qu'on ignore, a juste décidé de changer dans son codage ce numéro-là, qui est super important. Tu n'as aucune raison de changer ça. C'est ça qui t'associe avec tes ventes au gouvernement du Québec. Autre affaire que Mike Ward racontait dans son podcast, c'est que il testait un petit peu son intelligence artificielle qu'il avait intégrée dans son site. Puis à un moment donné, l'intelligence artificielle a donné à Mike Ward l'adresse privée de la maison de Mike Ward.
Ben voyons donc.
Alors que lui avait mis ça caché, j'imagine, quelque part dans son site pour des raisons, justement, comme son numéro de taxe et tout ça. Puis là, il a comme fait, voyons donc, je veux pas que n'importe qui... C'était comme, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Vous pouvez demander à Mike Ward. Puis là, ça donnait quasiment son numéro de téléphone puis son adresse.
Mais ça, c'est une affaire. Premièrement, oui, des fois, il y a des informations qui sont rentrées là-dedans puis que tu contrôles pas nécessairement tout ce qui se passe. Mais aussi, je trouve que l'IA fait semblant de savoir des affaires.
Ah, mais
des
ça,
fois.
C'est tout le temps.
Et pour vrai, tu sais, je me chicane un peu avec. Tu sais, des fois, il me dit quelque chose, c'est vraiment de la merde.
Mais souvent, il te donne raison, t'as-tu remarqué
ça? Ben oui,
ça?
Puis là, je dis là, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est telle affaire. Ah oui, pardon. Ben oui, mais crème, arrête de faire ça. Tu le sais pas.
Non, ça, c'est
mais Claude, c'est lui qui le fait le moins, ça, je trouve. Parce que Gemini puis Chad, justement, il va te donner raison.
C'est parce que. Mais l'intelligence artificielle aussi, ce que je lisais par rapport à ça, c'est qu'à la base, ça a tellement été conçu pour te donner des réponses que ça va en trouver puis t'es donné. Ça, dans son ordre de priorité, ça va préférer te donner. Puis là, je pense que c'est en train de changer parce que tout le monde s'en est rendu compte un peu. Puis là, les créateurs ont comme pas le choix de s'ajuster. Mais dans l'ordre de priorité, c'était « on va te donner une réponse qu'on n'est pas sûr à la place de te dire qu'on le sait pas. » Alors que c'est complètement ridicule.
Ben oui.
Mais c'est ça qui cause qu'on te donne des fois des âneries. Moi, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à faire mon itinéraire de voyage pour voir le plus de choses dans un délai prévu, mais sans être trop épuisant. J'avais trouvé ça bien, mais je ne l'ai jamais utilisé pour mon bac à l'université. Ça me fait penser à la semaine passée, Olivier Primeau, qui a clairement utilisé l'intelligence artificielle, puis tu sais, c'est pas grave, c'était juste rigolo, pour parler qu'il s'en allait en voyage, puis il voulait avoir des idées de choses à faire un peu partout. Puis là, il avait fait faire par l'intelligence artificielle un visuel où il y avait comme une carte du Québec. Toutes les villes n'étaient pas aux bonnes places. Puis c'était comme Trois-Rivières était à la place de Québec, ça à carte. Puis là, c'était tout croche. Puis il y a une ville qui était complètement à l'opposé de où est-ce qu'elle est pour vrai. Moi, tu sais, c'est le genre d'affaire où tu dis.
Mais c'est du contenu de mauvaise qualité. Tu as gagné du temps, mais tu as publié du contenu de mauvaise qualité. En passant, LinkedIn, depuis quelques temps, détecte les statuts qui sont composés par l'intelligence artificielle et ne les pousse pas dans l'algorithme. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ça veut dire que si tu prends la peine d'écrire là, comme un humain, là, une publication, ben, tu risques d'avoir plus de vues que quelqu'un qui a composer ça. Parce qu'en passant, on s'en rend compte. Encore une fois, là, je lis les statuts sur LinkedIn. Je suis comme, bon, ChatGPT est en forme un matin. On s'en rend compte. Est-ce que de plus en plus, les plateformes vont mettre en valeur ce qu'on a fait nous-mêmes? Puis, je reviens aux commentaires qu'on a reçus par texto. Pour faire un itinéraire de voyage, l'IA, c'est génial, c'est super. Parce que tu ne veux pas devenir agent de voyage dans la vie. Là. On fait un voyage par année, un voyage par deux ans. Peu importe, c'est bien correct. Tu peux prendre des raccourcis. Maintenant, si tu fais ton bac avec ChatGPT, puis en passant, là, c'est un fléau. C'est un fléau, là. Les gens, en ce moment, vont chercher des diplômes et c'est à Claude et à ChatGPT qu'on devrait remettre les diplômes, là. Mm. Puis, je ne comprends pas ce que ça leur donne aux gens. Tu as acquis zéro compétence. Tu sais, c'est pas juste pour le diplôme, là. On va à l'université ou faire des cours professionnels ou des techniques. C'est pour aller chercher des compétences. Tu contournes tout ça, tu as un diplôme, bravo, tu t'en vas sur le marché du travail, tu vas être pas bon.
Mais en même temps, ces personnes-là sur le marché du travail vont probablement juste comme continuer à utiliser l'intelligence
artificielle. Moi, je pense qu'à un moment donné, tu te fais pogner. C'est ça ma conclusion. Tu pognes ton nœud. Il y a des moments où tu as besoin de ton cerveau.
Oui. Au retour de la pause, les nouvelles avec Mathias et on se jase la chronique du jour de Karine Gagnon dans le Journal de Québec qui fait réagir beaucoup. Deux poids, deux mesures pour les enragés du clavier où elle attaque Dominique Dumas, candidat du Parti conservateur du Québec, ancien animateur de radio du côté de Choix. Et elle ressort certains propos de M. Dumas et fait des liens avec le Parti libéral du Québec, le PLQ, qui la semaine passée a dû exclure un candidat pour des propos qui n'avaient pas de foutu bon sens. Puis je pense qu'on s'entend tous pour dire que ce candidat-là, puis on pourra revenir tantôt sur ses propos, mais je pense qu'on s'entend qu'il avait raison d'être mis dehors puis de ne pas pouvoir se présenter pour le parti. Mais la question que Karine Gagnon se demande un petit peu, c'est de dire, OK, mais là, pourquoi c'est deux poids, deux mesures pour les candidats du Parti libéral du Québec, mais qu'un candidat du Parti conservateur du Québec arrive avec des propos, aux yeux de plusieurs, discutables, mais lui, c'est pas grave parce que c'est un animateur de radio, parce que c'est un conservateur.
Bonne question.
Qu'est-ce qui fait que lui peut rester candidat, mais pas celui pour le Parti libéral la semaine passée? Donc, on parle de ça au retour. Vous écoutez Le Retour à Boulevard.
Le retour.
Pardon, 34 minutes. Vous écoutez Le Retour à Boulevard avec Mathias Turcotte, Antonine Iacarini et Max Larouche avec vous jusqu'à 18h dans Le Retour. Mathias, dans l'actualité, bon, c'est assez mollo là, comme journée. En fait, pour compliquer, souvent, chaque année, la deuxième semaine des vacances de la construction, c'est un petit peu la plus poche de l'année dans l'actualité. Puis aujourd'hui, on est pas mal là-dedans.
Oui, je commence par Max Bronner, qui est un homme de 31 ans qui a été arrêté pour meurtre non prémédité du côté de la Montérégie. C'est une attaque qui s'est produite hier soir, justement dans le secteur de la Montérégie. Puis un peu plus tôt aujourd'hui, on avait eu vent comme quoi un homme de 54 ans était décédé suivant une violente altercation hier soir vers 21h. Mais on n'avait pas nécessairement de détails. On nous disait que c'était potentiellement un meurtre. Là, on a eu un homme qui a comparu en justice aujourd'hui dans ce dossier-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'Adam Atkins, qui est l'homme de 54 ans, s'était réuni avec une dizaine d'amis dans sa cour arrière et tout pour faire une petite soirée relax, boire une bière. Et c'est vers 20h30 que finalement le suspect a poignardé l'homme de 54 ans. De ce qu'on comprend, il n'y a pas nécessairement de raison, du moins on ne les connaît pas pour l'instant. Le suspect qui avait également attaqué une autre victime il y a de ça quelques semaines, il n'y avait pas eu de plainte, donc il n'y avait eu aucune intervention auprès de la victime, mais c'est une histoire qui se déroule présentement du côté de la Montérégie. La baignade à la baie de Beauport est présentement interdite, malgré le fait qu'à 10h ce matin, l'accès à l'eau était permise. Finalement, on a fermé tout ça 30 minutes plus tard à 10h30.
Les requins blancs?
Non, on a trouvé la bactérie E. coli,
ben.
Qui était toujours présente dans l'eau. Donc, cette bactérie-là qui peut mener à des diarrhées, des crampes abdominales, des nausées et des vomissements. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est surtout attribuable aux puits qui ont fait déborder les égouts récemment du côté de la ville de Québec. Une chasse à l'homme est en cours en Mauricie. On recherche Philippe Benoît, un homme de 41 ans qui est soupçonné d'avoir tué son propre fils. Le tout a débuté hier alors que la mère de Philippe Benoît a appelé les autorités pour signaler sa disparition. Les policiers ont alors découvert un corps et une arme dans l'entrée de la maison du suspect. La voiture de Philippe Benoît qui a aussi été retrouvée, mais l'homme est toujours recherché au moment où je vous parle. Et les négociations en Iran qui aurait potentiellement reprise. Du moins, c'est ce que Donald Trump essaie de nous dire. Selon le président américain, on aurait de fortes chances de conclure un accord avec l'Iran du côté des États-Unis. Au même moment, les dirigeants iraniens démentent négocier avec les Américains. Fait que je vous répète, là, c'est pas la première fois qu'on vit ce scénario-là. Trump dit « on est tout près d'un accord ». Les Iraniens disent « non, non, on discute même pas ». Une chose est sûre, c'est qu'heureusement, au cours des derniers jours, le prix du baril de pétrole qui a quand même chuté fortement en raison des trois derniers jours sans frappe américaine du côté de l'Iran.
Au sport, le Canadien de Montréal a annoncé cet après-midi l'acquisition de l'attaquant Sacha Pastujov des Ducks d'Anaheim en retour de l'attaquant Sean Farrell. Pastujov, 23 ans, qui a disputé 71 matchs avec les Ghouls de San Diego dans la Ligue américaine l'an dernier, inscrivant 21 buts, récoltant 57 points. Il avait été un choix de troisième ronde des Ducks d'Anaheim au repêchage 2021 de la LNH. Chronique fait beaucoup réagir de Karine Gagnon ce matin dans le journal de Québec. Et au 88-971-1021, je suis curieux d'avoir vos réactions. Puis en même temps, je vais me servir de l'ami Denis Gravel, qui, à défaut d'être déjà de retour, il le sera la semaine prochaine, a déposé une question sur son Facebook que j'ai trouvée bien intéressante. Et je vous la pose au 88-971-1021. Denis écrit « Question sans parti pris. Si votre premier geste quand vous vous lancez en politique, c'est d'effacer des milliers de tweets où vous parlez de politique, y a-tu juste moi qui se demande pourquoi je vous ferais confiance? » Donc, question au sens large de Denis. Je vous invite à y répondre, comme je vous dis, au 88-971-1021. Pour revenir directement à la chronique de Karine Gagnon, elle signe « Deux poids, deux mesures pour les enragés du clavier ». Et Karine Gagnon écrit « Il y a de la chance, Éric Duhaime, parce que pendant que Charles Milliard passe un méchant sale quart d'heure à cause des publications d'un candidat qui a dû finalement écarter, ben Éric Duhaime, lui, ben, peut se permettre de présenter... Et je cite Karine Gagnon, l'un des pires bullies des ondes de la radio de Québec, et ce, en toute impunité. Et elle parle ici de Dom Dumas, Dominique Dumas, qui jusqu'à il y a quelques semaines était co-animateur de Moret sur les ondes de Choix Radio X. Et là, ben, elle se présente pour les conservateurs dans Chute de la Chaudière. Et lui, Dominique Dumas, l'a admis en entrevue sur les ondes de Cogeco dans les dernières semaines. Qui avait fait un bon ménage de son compte Twitter. Et là, on peut refaire le lien avec ce qui a été déposé sur le Facebook de Denis Gravel, sa question. Mais Karine Gagnon ramène certains propos de Dominique Dumas des dernières années. Puis ce qu'elle veut faire, visiblement, c'est faire la comparaison avec les propos qui ont mené à l'exclusion du candidat libéral la semaine passée, puis demande pourquoi Dumas, lui, c'est correct. 2021, Dumas qui dénonçait les mesures sanitaires, puis disait « Se sentir de plus en plus comme une femme battue avec un conjoint violent et abuseur, puis il essaie de faire semblant que ça va bien pour les enfants. » C'est ça qu'il écrivait. En 2022, Karine Gagnon dénonçait Dominique Dumas réclamait sa tête sur X. Écrivait « La fin de Karine, c'est quand? Est-ce qu'elle a des photos compromettantes de ses boss pour garder sa job malgré l'insignifiance de tous ses textes depuis des années? Pas d'idée originale, pas d'argument, pas de recherche, pas de travail. Québécois est pas gêné. Ouais, OK, non. » Puis là, elle disait que c'était grave, qu'elle conserve une multitude de publications faites à son sujet où il l'insulte. Elle parle d'une forme de harcèlement depuis des années, puis que ses patrons, ses ex-patrons de Radio X étaient au courant puis avaient vraisemblablement pas de, de problème avec ça. Puis il mentionne d'ailleurs que sans doute que Doom Dumas retrouvera un micro s'il n'est pas élu. Et elle écrit « Insulter, c'est pas mal plus facile que de travailler, de réfléchir, de s'instruire et de s'informer avant de parler. » Dans les propos que j'ai mentionnés, on dirait que je la faisais dans ma tête, la comparaison avec ce qui a été mentionné la semaine passée par monsieur, c'était Savard, où, bon, attaquait notamment Paul Saint-Pierre Plamondon et ses suiveurs en parlant de nazis sans envergure.
Oui, nazis sans envergure. On a aussi dit du côté de monsieur Savard, en réponse à un autre commentaire, les hosties laïques peuvent bien aller se faire foutre qu'ils viennent débattre avec mon bat de baseball.
Et là, d'ailleurs, on se souvient que c'était visiblement là que la ligne avait été tracée parce que plus tôt dans la journée, M. Savard s'était expliqué, s'était excusé plutôt par rapport à ses propos, ses petits nazis sans envergure. Puis ça, de ce qu'on comprend, le Parti libéral avait trouvé que c'était correct.
Ouais.
Puis c'est plus tard, avec les l'histoire de bat de baseball et tout ça,
ça c'est non.
Que c'était là qu'on traçait la ligne. Du côté des conservateurs, est-ce que la ligne devrait être tracée là, aujourd'hui, quand on retourne dans les archives de Dominique Dumas, de dire qu'il se sentait comme une femme battue avec un conjoint violent et abuseur sur les réseaux sociaux en dénonçant les mesures sanitaires?
Ben, écoute, c'est pas une opinion avec laquelle je suis en accord. Est-ce que c'est une attaque personnelle? Est-ce que c'est une insulte? Non. Moi, c'est un peu là que je mets la ligne. Donc, cela dit, le double standard que Karine Gagnon souligne, c'est vraiment intéressant. Elle a raison. Il y a un double standard, je pense. Mais ce que tu me dis là, comme propos, moi, c'est un argument pour ne pas voter pour cette personne-là. Mais ce n'est pas un argument pour qu'elle n'ait pas le droit de se présenter.
Et si on passe à l'autre exemple soulevé par Karine Gagnon, où il demandait notamment la fin de Karine, c'est quand? Est-ce qu'elle a des photos compromettantes de ses boss pour garder sa job malgré l'insignifiance de tous ses textes depuis des années? Zéro idée originale, zéro argument, zéro recherche, zéro travail, Québécois n'est pas gêné. Ça, est-ce que ça rentre assez pour toi dans les attaques personnelles?
Ben ça, c'est une attaque personnelle.
Oui.
Mais...
il n'y a pas de violence.
C'est pas une insulte contre... Ben, c'est une insulte parce qu'il la trouve incompétente. Il a décidé de le dire.
Soulève, t'sais, la question, est-ce qu'elle a des photos compromettantes de ses boss?
Mais c'est drôle parce que je pensais pas que la phrase allait finir de même. Est-ce qu'elle a des photos compromettantes? J'étais comme... puis là, de ses boss, ah ouais, tu sais. Je trouve ça vraiment cheap puis vraiment plate. Maintenant, est-ce que je suis surprise qu'Éric Duhaime garde quelqu'un qui dit des choses comme ça? Non.
Puis c'est vraiment moins pire que Michel Savard, tant qu'à moi. Moi
j'ai je trouve aussi en passant.
Mais,
oui.
mais j'ai ressorti, moi, pour moi, un des tweets qui... parce que Karine Gagnon ne cite pas, là. Mais un des tweets qui, moi, que j'avais retrouvé sur X, qui m'avait le plus froissé de Dominique Dumas. C'était en 2019, en réponse à Salomé Corbeau, qui avait écrit « Un drapeau nazi contre la fierté LGBTQ2+, aux États-Unis, ça me donne envie de pleurer. » Et voir la police protéger ce groupe, ça me donne envie de vomir. En parlant d'une manifestation
d'extrême droite
qui se promenait avec des drapeaux nazis puis des drapeaux qui est contre, justement, tout ce qui est LGBTQ+, et tout. Puis Doom Dumas avait répondu, « Si vous ne croyez pas à la liberté d'expression pour des idées qui peuvent vous dégoûter, vous ne croyez pas à la liberté d'expression. » Mais encore une fois, on vient un peu défendre des idées nazies. Puis, tu sais, c'est pas si pire que ça. Puis moi, je pense pas que c'est au même niveau que Michel Savard, encore une fois. Mais c'est des tweets qui peuvent amener à certains questionnements quand même.
Des propos haineux, puis des crimes haineux, c'est pas la liberté d'expression. Donc là, indirectement, tu dis « défends quelque chose d'indéfendable ». Encore là, c'est pas... on dirait que la ligne, c'est à l'attaque. Faut faire la différence entre une critique... ou être en désaccord avec quelqu'un, puis une attaque personnelle, une attaque qui vise des groupes de la société,
fois,
propos haineux, etc.
La ligne peut être très mince.
Puis on n'a pas tous la même ligne. Il n'y a pas un livre dans lequel c'est écrit « c'est là qu'on tire la ligne ». Et je pense que nos attentes envers les partis de droite populistes, ce qui est le Parti conservateur du Québec, sont différentes de ce qu'on attend d'un parti, disons, plus centriste. OK? Donc, je m'attends à ce qu'un parti conservateur défende bec et ongle la liberté d'expression.
Oui.
Et qu'ils mettent la ligne de la liberté d'expression plus loin que, peut- le commun des mortels peut-être mettrait la ligne de liberté d'expression. Donc, c'est pour ça que je suis pas surprise que ça ne dérange pas Éric Duhaime que Dominique Dumas ait dit certaines choses. Par contre, vu qu'il les a effacés, ces tweets...
Ben c'est ça. Puis ça, c'est l'autre débat. Puis là, je veux qu'on... Puis on pourra en reparler, là. 418-971-1021. Il y a une différence entre lancer des insultes et faire l'apologie de la violence comme l'a fait Savard. Les électeurs voteront en toute connaissance de cause. Quelqu'un dit « Dom Dumas ralentit le groupe durant la pandémie comme ses petits chums Moret, Fillion, Duhaime. » Karine Gagnon fait juste se venger. C'est un autre point qui est entré.
C'est un affrontement qu'il y a entre Karine Gagnon et les animateurs de radio de cette radio-là depuis très longtemps. C'est vrai, mais elle a un point quand même.
Mais là où je reviens sur un texto que j'ai lu, les électeurs voteront en toute connaissance de cause. Puis là, ça l'amène l'autre point. Puis je vous ramène la question de Gravel. Question sans parti pris. Si votre premier geste quand vous vous lancez en politique, c'est d'effacer des milliers de tweets où vous parlez de politique, y a-tu juste moi qui se demande pourquoi je vous ferais confiance?
Et voilà. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement à un parti politique d'empêcher quelqu'un comme ça de se présenter. Par contre, j'ai l'impression que les électeurs vont en tirer certaines conclusions. Oui, il y a des gens qui vont... Puis, il y a des chances d'être élus aussi, hein, Dominique Dumas, il faut le dire. Là, il présente dans une circonscription où est-ce qu'il y a un terreau assez fertile. Mais moi, je pense que le Parti conservateur du Québec... atteint à un moment donné la fin de sa croissance justement en présentant des candidats comme ceux-là et en défendant des propos comme ils ont été tenus.
Des candidats comme ceux-là qui ont effacé leur tweet parce qu'ils ont tiré sur un peu tout le monde par le passé. Puis j'en ai retrouvé un autre que là, on est un peu plus dans l'insulte en parlant de justement la gestion de l'offre au Québec. Il a écrit « Si t'es un producteur de lait qui reconnaît la merde de votre système, t'es correct avec moi. Si tu défends le système, t'es un hostie de voleur. »
Ouais, c'est une insulte.
Ouais. Mais
puis
là
si
encore...
ce candidat-là se présentait pour le PQ ou le Parti libéral ou la CAQ, ce serait terminé.
Oui, 100%. Oui.
Mais tu sais, c'est ça aussi l'avantage des partis qui sont pas rendus aux portes du pouvoir. Parce qu'on va se dire les vraies choses, ce serait étonnant que le PCQ gagne l'élection cet automne. Comme QS, mettons.
C'est sûr que tu peux t'en permettre davantage.
J'ai l'impression qu'on laisse un peu plus une free ride, des fois, aux petits partis pour certaines choses, alors que le Parti libéral... Ben, puis en plus, tu sais, le Parti libéral, c'est le parti... tu sais, c'est bon chic, bon genre, ça fait un peu la morale aux autres. Donc, évidemment, tu peux pas commencer à garder des candidats qui disent des choses comme celle-là. Donc, on n'a pas les mêmes attentes envers un petit parti qu'envers un parti qui a des chances de gagner la prochaine élection, je crois.
Puis quelqu'un demande en même temps qui ne ferait pas le ménage. Puis ça aussi, c'est une autre question intéressante. T'sais, moi, est-ce que, mettons, je me lance en politique demain matin, là, j'ai sûrement des affaires quelque part qui ressortiraient sur des affaires que j'ai dites à la politique quand j'avais 17 ans, que j'étais plus extrême encore que je le suis aujourd'hui. Fait qu'en effet, mais... C'est quand que t'en viens à devoir effacer des centaines et des centaines de tweets sur des positions qu'à un moment donné, tu dois
d'afficher. Sur la politique. Parce que si t'avais écrit toutes sortes d'affaires, toutes sortes de sujets qui n'ont pas rapport avec un engagement politique, c'est tel que tel. Puis c'est vrai que tout le monde fait le ménage parce que tu veux pas que ça devienne une distraction pendant la campagne.
Je pose la question qui a été posée par Denis Gravel, qui est en vacances, sera de retour lundi prochain, mais vraisemblablement, il s'ennuie. Question sans parti pris, si votre premier geste quand vous lancez en politique, c'est d'effacer des milliers de tweets où vous parlez de politique, y a-t-il juste moi qui se demande pourquoi je vous ferais confiance? Et pour répondre à la question de Denis, on a au téléphone... Allô, à qui on parle?
Un auditeur qui aimerait émettre une opinion sur le sujet.
Allez-y, monsieur.
M'entendez-vous bien?
Oui, on t'entend super bien, monsieur Gravouille.
Non, je sais que, ben, évidemment, en posant la question aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça vise directement Dominique Dumas, mais ça pourrait s'appliquer à notre façon de faire de la politique en 2026, parce que c'est pas le premier qu'il fait. C'est sûr que c'est un des cas les plus hurlants, parce que c'est un gars qui, pendant des années, a fait la leçon à tout le monde, tu sais, les politiciens, les médias, et ainsi de suite. Mais quand vient le temps de se lancer en politique, alors que pendant des milliers, même des dizaines de milliers de tweets à tous les jours pendant des années, t'as commenté la politique, t'as commenté les politiciens, t'as commenté les agissements des acteurs politiques, et là, tu te lances en politique, et la première chose que tu fais, tu prends cette banque d'informations-là sur qui t'es et comment tu penses, et tu vas la cacher aux gens pendant une campagne électorale. Je comprends pas le processus mental, pour deux raisons. La première, penser que ces tweets-là vont disparaître, faut être nono en tabarnouche. Puis la deuxième, c'est que, tu sais, si je me présente à un employeur dans n'importe quel domaine, puis que mon CV est vide, puis que je dis à mon employeur, ben j'avais des affaires, mais je les ai toutes enlevées, c'est sûr que l'employeur va se poser des questions. Là, on a des gens qui proposent de faire la politique différemment, et la première chose qu'ils font en se lançant dans la piscine, ben c'est de faire ce que tout le monde fait, puis de cacher ce que t'as dit ou ce que t'as pensé. Alors que, mon Dieu Seigneur, c'est pas dur de dire, hey, j'ai fait 30 ans de radio, des conneries, j'en ai dit, j'en ai fait, j'en ai pensé. J'ai évolué en tant que personne, ma vision a changé sur certaines choses. Il y a des soirs que j'étais sous comme une botte. Bref, vous pouvez prendre tous les tweets, tout ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je vais owner my shit, puis je vais me présenter aux gens tel que je suis en expliquant ou en justifiant les prises de position que j'ai prises au fil des années, soit en les justifiant ou soit en les excusant quand j'ai dépassé les limites.
En théorie, Denis, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis là, ça devrait être la logique même. Mais, je me fais l'avocat du diable, en pratique, mettons que Denis se lance en politique. Assume oui. toutes ses affaires du passé. Mais là, tu oui. tombes en campagne. Ça va vite, là, en campagne électorale. Puis là, ton chef est dans son autobus, fait le tour du Québec. Puis là, il y a quelqu'un qui sort une affaire hors contexte, avec une photo bizarre, peu importe ce que c'est, un déguisement d'Halloween qui a mal vieilli, je ne sais trop, OK? Puis là, oui. ton chef ou ta chef se fait interroger là-dessus, perd sa journée, l'annonce du jour prend le clos. Tu sais, c'est un peu ça que je pense que les candidats essaient d'éviter, puis... Peut-être qu'il devrait se poser la question à la base, effectivement, si c'est normal d'avoir accumulé autant de choses gênantes qu'il faut les effacer. Mais je pense que c'est normal aussi que les candidats fassent un petit ménage, non?
Ouais, mais il y a une différence aussi entre une erreur de jeunesse ou une photo que tu as pris tout nu assis à la toilette un soir que tu étais chaud au cégep.
On salue versus... le candidat de la CAQ en 2018.
Oui, exactement. Versus quelqu'un qui a accumulé 50 000 tweets où la plupart du temps, tu t'exprimes sur la politique. Je veux dire, c'est dur de te détacher de cette somme-là qui fait en sorte que tu nous montres que oui, la politique fait partie de ta vie, puis t'es un passionné de politique. Mais moi, je serais très inconfortable. Je serais plus inconfortable, Anto, de me présenter pour un chef qui dit « efface tout ce que t'as publié sur les réseaux sociaux. » Puis idéalement, si t'as des vieux tapes de tes vieilles émissions de radio, ben essaye de passer quelque chose de magnétique par-dessus. Je serais plus inconfortable à faire ça qu'à faire en sorte que mon chef, pendant une journée de campagne électorale, se retrouve dans l'eau chaude parce qu'on bombarde avec quelque chose qui fait partie pour moi de l'environnement public. Puis j'essaierais de le prendre sur moi aussi. Il y a des gens qui changent d'idée. Il y a des gens qui s'adoucissent avec le temps. Il y a des gens... Hey, en 30 ans de radio, j'en ai dit des conneries. J'en ai pensé des conneries aussi. Puis la semaine prochaine, quand je vais revenir en ondes, il y a des bonnes chances que je dise d'autres conneries puis que j'en pense d'autres conneries aussi. Mais les assumer puis aller au-devant des gens puis dire, ben écoutez, ça, c'est ce que je pense. Je l'ai peut-être dit de façon malhabile, mais c'est quand même ce que je pense, ou c'est plus ce que je pense pour telle raison. Moi, ça montre une transparence de départ, puis j'ai tendance à pardonner davantage ça qu'une certaine hypocrisie, ou dès que tu te lances en politique, tout ce que t'as dit, ces politiciens, tu t'en vas le mettre, en tout cas, tu penses que tu t'en vas le cacher à quelque part, puis ça, moi, je reviens à la base. Comment peux-tu être naïf au point que tu penses que tout va disparaître la seconde où tu vas effacer tout ce que tu as dit puis tout ce que tu as écrit? Au contraire, moi, je pense que tu mets toi-même le spotlight sur un certain malaise à assumer tes prises de position.
Denis Gravel, ça va être tough, là, mais moins d'une minute, j'ai deux questions pour toi. Premièrement, est-ce que tu t'ennuies de faire de la radio? Je pense que tu peux juste dire oui là, si tu nous appelles aujourd'hui. J'imagine que ça te manque un petit peu. On te retrouve lundi prochain dans le retour avec les filles. Donc, deuxième question, c'était comment la AEW du côté de Montréal?
C'est vraiment chouette, mais c'était long. Tu sais, imagine un show de ton band préféré qui dure 5 heures. Ben, ça a été ça, le show de la AEW. J'aime ça de la lutte, là, mais 5 heures en ligne, là, c'est quelque chose de spécial. On en a eu pour notre argent, c'est le moins qu'on puisse dire. La famille Rougeau, à qui on a rendu hommage en début de gala, c'était une belle pensée. Puis, pour revenir au fait d'avoir hâte de faire de la radio, ouais, j'aurais tendance à te répondre oui. Puis en même temps, ben écoute, on n'a plus de vie privée. Là, je mange une poutine, j'écris un tweet, je rentre dans mon char, puis mon tweet est rendu un sujet d'actualité.
C'est l'été, hein, Denis? Il se passe pas grand-chose, là. C'est juste pour ça.
C'est pas facile. C'est pas facile.
J'ai sauté là-dessus comme de la chair fraîche. Merci beaucoup, Denis. À lundi prochain.
En tout cas, je vous écoute, je vous trouve pas mal bon. Là, je suis en train de me demander si mes boss ne ressortiront pas à calculatrice puis si je vais avoir un job la semaine prochaine. Là.
Ben moi, je suis en vacances la semaine prochaine, fait que tu pourras au moins me remplacer si jamais.
Tu souhaiteras de la merde, je vais faire des nouvelles avec.
Ouais, ça, je le fais chaque jour pas mal, fait que surveille mon Twitter.
Salut les amis.
Salut Denis. Denis Gravel qui s'ennuie de faire de la radio. Au retour de la pause, puis je vois là, le temps file. Là, on n'avait pas prévu cet appel-là, Denis. Si vous vous demandez, c'était-tu stagé?
Pas tout.
Vraiment, vraiment pas.
On l'a vécu.
Ouais. Fait que au retour de la pause, Misha Arswell, vous l'aimez beaucoup. Elle s'amène et nous parle aujourd'hui. Misha qui est une passionnée d'histoire, là, vous le savez si vous la suivez sur les réseaux sociaux. On se parle de statut de Québec. Et épisode 2, genre, parce que la semaine passée, on s'en était déjà parlé. Là, on se parle de la statue de Wolf, du général Wolf, le méchant,
le méchant.
L'anglais. On se parle de ça avec Micha.